France Info.
Bonsoir à tous. Les fonctionnaires de banlieue évoquent-ils un retour de François Hollande sur Facebook? Question qui n'a ni queue ni tête, mais qui a juste le mérite de vous éclairer peut-être un peu sur les thèmes dont nous allons débattre ce soir. Cette grève des fonctionnaires, ce plan banlieue présenté aujourd'hui, ces propos sibyllins de l'ancien président de la République ce matin sur notre antenne, et puis cette audition du patron de Facebook devant des parlementaires européens. Alors, voilà pour les thèmes. Il faut maintenant que je vous présente les informés de ce mardi soir. Bonsoir Jérôme Ripoul.
Bonsoir Olivier.
Communicant, co-président de l'agence Confluence. Christophe Pirel, bonsoir à
vous. Bonsoir.
Ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande à l'Élysée. Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Libération. Et enfin Albert Zenou, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef au service politique du Figaro. Vous êtes bien installé. Allez, c'est parti pour une heure de débat.
Je suis en colère, je suis vraiment en colère. Et je veux dire, aujourd'hui, j'en ai marre d'entendre que les retraités qui ont travaillé toute leur vie, ils ont du mal à payer leur loyer, ils ne peuvent pas se chauffer. J'en ai marre que des gens, ils soient montrés du doigt, que les privés d'emploi soient montrés du doigt. Ils sont en rien responsables, ils n'ont qu'une envie, c'est de bosser, alors qu'on leur permette de bosser dignement.
Voilà, chose vue, entendue dans le cortège marseillais aujourd'hui. Les syndicats appelaient effectivement les fonctionnaires à cesser le travail et à manifester contre la mise à mal des missions publiques, la dégradation des conditions de travail et pour le pouvoir d'achat. Les fonctionnaires ont raison d'être mécontents, Jonathan Boucher-Petersen?
Non, je ne sais pas s'ils ont raison. C'est assez symptomatique le son qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'on est à la manif des fonctionnaires et on sent bien que ça dépasse très largement la question des fonctionnaires. On ne sent pas des gens qui sont en train de se battre comme Air France pour une augmentation salariale, une négociation telle qu'elle peut se faire avec un patron. Ça va un petit peu au-delà. Donc parce que les colères ont tendance à se multiplier, qu'effectivement les sentiments d'injustice depuis le début du quinquennat, il y a beaucoup de gens qui le ressentent. Il y a d'autres gens qui ont un autre regard, qui ont l'impression que la France reprend son rang, ce qui est peut-être une réalité, qu'elle reprend de l'activité, c'est aussi peut-être une réalité. N'empêche que voilà, la société, on sent que tout le monde n'est pas dans le train, ça c'est très clair, qu'il y a des gens qui sont plus ou moins pointés du doigt, ça rajoute, j'allais dire, de la motivation dans la colère. C'est pas pour ça qu'il y a beaucoup de monde dans les rues, ça pour le coup on l'a beaucoup documenté depuis le début du quinquennat. Alors,
16 400 personnes aujourd'hui dans la manifestation parisienne, c'est assez peu et c'est moins que la dernière manifestation
de mars. Mais c'est vrai qu'on sent que la rue est quand même largement est régulièrement occupé, que le mouvement social il a du mal à coaguler, enfin ça pareil, c'est des choses qu'on commente régulièrement. Attention en tout cas voilà, parce que cette idée du ça va mieux voilà, faut pas qu'on voit à longueur de journée à la télévision des gens pour qui ça va pas du tout mieux et c'est difficilement contestable.
Albert Zenou, vous le trouvez très légitime ce mouvement des fonctionnaires?
Légitime, je ne sais pas. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que je comprends leur inquiétude, je comprends leurs revendications, ils sont mal payés. Ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter dans la fonction publique. Des missions sont en train de partir à volo, une considération qui est moindre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires. Aujourd'hui, s'ils étaient moins nombreux, ils seraient beaucoup mieux payés. C'est toute la difficulté de notre pays. On a 5,4 millions de fonctionnaires en France.
6 même, 6.
Qui est un chiffre qui est quand même
assez... Dont 1 million contractuel.
Assez conséquent, dont 20% de contractuels. Le président a annoncé qu'il voulait renforcer visiblement le nombre de contractuels, mais il n'empêchera pas que cette masse salariale est énorme. C'est un poids sur l'économie générale de la France et ça pèsera toujours sur les conditions de travail et de rémunération des fonctionnaires.
Jérôme Ripoul.
Oui, on est d'accord, ils ont des motifs d'inquiétude et puis, comme vous le disiez, il y a un vrai problème sur l'ensemble de la masse des fonctionnaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont effectivement trop nombreux et ils ont un statut qui, me semble-t-il, pose problème, c'est le statut à vie, qui est inadapté aujourd'hui au monde du travail et qui est inadapté aussi à leur situation. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse rentrer dans la fonction publique à un moment donné de sa vie, y rester toute sa vie professionnelle, parfois, pour ceux qui sont en bas de l'échelle, sans évolution, parce que c'est ça qu'il faut dire, et donc je ne serais pas choqué que le statut de fonctionnaire se fasse dans un temps limité. Ce qui permettrait, de surcroît, d'apporter, quand on a été en cabinet ministériel, on sait bien ça, d'apporter du sang neuf. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens, il faut renouveler cette fonction qui, quand même, tourne un peu à vide. Alors, donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils sont totalement à plaindre.
Je ne sais pas ce que va nous dire Christophe Pirel, mais vu les mimiques qu'il faisait en vous écoutant, je pense qu'il n'est pas du tout d'accord avec vous.
Mais non, mais j'adore les déclarations à l'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'il y a trop de fonctionnaires.
Alors ça, c'est un truc qu'on entend depuis des dizaines d'années, sauf que ça ne veut absolument rien dire. Il y a trop de fonctionnaires.
Entendez, Jean Mripouille,
vous il y a trop de fonctionnaires. Où il y a trop de fonctionnaires? Pourquoi? Toutes ces questions, on n'y trouve jamais de réponse. Vous savez, moi, j'habite dans un territoire qui s'appelle les Hautes-Alpes. C'est un territoire rural et je peux vous dire à quoi sert le service public. Je vous parle pas de la question des fonctionnaires. Parce que là, une nouvelle fois, comme sur la question du ferroviaire, on prend le problème sur un petit bout, c'est-à-dire que sur la SNCF, on va parler du statut des cheminots. Là, on va parler de la question des fonctionnaires. Moi, je vous parle de service public.
Il y a 5,6 millions de fonctionnaires et dans les territoires ruraux. Et dans les territoires ruraux,
quand dans le même jour, quand dans le même jour, on va parler, quand dans le même jour, on va parler de politique dans les quartiers et dans la ruralité. Effectivement, le parallèle est assez vite fait. Pour assurer un service public, pour faire en sorte que nos territoires aillent bien, pour faire en sorte que notre ruralité se porte bien, pour faire en sorte que nos quartiers aillent mieux, il y a aussi besoin de services publics. Vous savez, chez moi, qu'est-ce qui a été fait ? 50 postes de moins dans l'hôpital de Gap, des suppressions de classes dans la ruralité parce qu'effectivement il y en a moins besoin. Toutes ces choses là, cumulées, vous pouvez dire il y a pas assez de fonctionnaires, il y a trop de fonctionnaires. Moi je vous dis par exemple chez moi dans mon territoire il y en a pas assez. Donc c'est une déclaration, c'est parce que je vous dis à l'emporte-pièce, c'est-à-dire que c'est d'une facilité déconcertante et démagogique. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est la déclaration effectivement qui va bien quand on veut se faire plaisir et qu'on veut dire que les fonctionnaires coûtent cher, sauf qu'en fait, c'est pas le problème. Attendez, le problème, c'est que l'organisation même des services publics.
Je vous arrête parce que vous dites, il y a 5,6 millions de fonctionnaires et vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de fonctionnaires et vous avez raison dans les territoires ruraux. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un problème d'organisation.
Mais d'organisation. Où est-ce qu'il y en a trop?
Déjà, c'est une question.
Parce que souvent, on a ce discours qui se freine, c'est-à-dire de gens qui disent, le service public, c'est quand même quelque chose. Voire, c'est un argument de compétitivité. Mais il faut quand même moins d'État.
Et c'est là où la quadrature est un petit peu fonctionnaire. C'est une très bonne question. Il est 20h10, messieurs, c'est l'heure de l'info sur France Info, avec Stéphane Milhomme, et puis le débat se poursuit juste après.
139 000 manifestants dans toute la France, c'est le bilan officiel fourni ce soir par le ministère de l'Intérieur. Après cette journée d'action des fonctionnaires, 16 400 participants à la manifestation parisienne, selon cette fois le comptage du cabinet Occurrence pour plusieurs médias, dont France Info. Une vingtaine de personnes, parfois encagoulées, ont été interpellées en marge du cortège à Paris à la suite d'incidents ou encore de violences. La grève demain et jeudi, cette fois la SNCF, la direction promet 3 TGV sur 5, un TER et sur deux et des perturbations en baisse pour cette 21e journée du conflit. Le résultat du match Ajaccio-Le Havre est entériné, mais le stade François Coty est suspendu à titre conservatoire. La Ligue professionnelle de foot a tranché après les incidents de dimanche. Le match barrage Ajaccio-Toulouse aura lieu demain, mais à Montpellier et à huis clos. Le Premier ministre originaire du Havre se dit consterné. Pour Édouard Philippe, le football a perdu. L'Union européenne dénonce un vote entaché d'irrégularité dimanche dernier au Venezuela et envisage des sanctions. Nicolas Maduro a été réélu avec 68% des suffrages, mais le scrutin de cette présidentielle a été boycotté par l'opposition. Et puis la France veut donner un vrai coup d'accélérateur aux voitures électriques. Le comité stratégique de la filière automobile souhaite arriver à la vente annuelle de 150 000 véhicules électriques d'ici 2022. En échange, l'État garantirait l'installation d'une borne électrique pour 10 voitures.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Des informés qui ont commencé très fort ce soir, on débat du nombre de fonctionnaires en France et on n'est pas d'accord entre Jérôme Ripoul et Christophe Pierrel. On vous demandait combien, où est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires, Jérôme Ripoul?
Je pense, j'ai cité la culture, je pense effectivement qu'il n'y a aucune raison que les musées aujourd'hui soient gérés par l'État. Et on voit bien
que vous les gérez comment, les musées, dans ces cas-là?
Mais ça peut se privatiser. On l'a vu, il y a de très bons excès.
Vous savez que les sujets, les musées, c'est vraiment un sujet très rentable pour le coup en France.
Alors, je pense qu'après les petites lignes, on va avoir pas mal de petits musées qui vont fermer.
Messieurs, si vous permettez de répondre, parce que vous parlez d'emporte-pièce, mais là on est à fond dans l'emporte-pièce. Donc il y a la culture, il y a à l'évidence aujourd'hui des territoires, dans les territoires, des fonctionnaires territoriaux et dans certaines villes où il y a trop de fonctionnaires. Pas partout, c'est vrai, pas partout. Et donc il y a une réorganisation. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas, avec 5,6 millions de fonctionnaires, trop de fonctionnaires. Ils sont mal répartis, ça vous avez sans doute, ça vous ne le dites pas, et il y en a sans doute trop à certains endroits. Après, il n'y en a pas trop dans la fonction publique hospitalière, c'est évident. Ah non, il n'y en a pas trop dans l'éducation nationale, mais attendez, oui, mais... Moi, ce que je vous demande, c'est, dites-moi où est-ce qu'on peut rationaliser.
Mais juste d'un chiffre, rationalisons avec un chiffre qui va être difficilement contestable. Dans les années 1980, 3,8 millions de fonctionnaires en France. On sait que la population totale, a priori, était un tout petit peu inférieure. Quand on prend des ratios, truc très rationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas proportionnellement par rapport à la population totale, plus de fonctionnaires aujourd'hui, en 2018, qu'en 1980. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que le regard change à ce point-là? Parce que formellement, le poids, comme vous dites, cette réalité dans la société, formellement, il y a de plus en plus de monde, avec de plus en plus de gens qui vieillissent, de plus en plus de gens qui ont besoin de services publics au bout d'un moment. Parce que le service public, c'est pas simplement un cours. On n'a pas parlé une seconde des missions. Derrière, évidemment, des questions légitimes. Mmh. Mais moi, quand on prend la liste des récriminations sur la question du gel du point d'indice, c'est-à-dire le message qu'envoie la puissance publique à ses agents pour dire « je vous soutiens ». Gel absolu, gel en 2018, gel en 2019, petite augmentation au niveau de l'inflation. Enfin voilà, on est sur des choses quand même, les gens sont d'abord dans un engagement. Ils ne sont pas allés se planquer dans le service public. Et en même temps, vous avez tout à fait le droit de ne pas vous y projeter. Quand vous dites, je ne comprends pas que des gens aient envie d'être fonctionnaires à vie.
Mais c'est pour eux.
On a l'impression, enfin, formellement, c'est presque un peu insultant pour eux. C'est pas ça. Leur but, c'est pas l'emploi à vie, peut-être. Peut-être que le but, c'est de s'engager dans leur collectivité.
Il y a quand même une notion d'emploi à vie qui est importante. Quand on décide de rentrer dans la fonction publique, certes, il y a le goût du service public.
C'est un mélange de tout ça, je pense. En tout cas, c'est difficile de réduire.
Il y a des arbitrages à faire. Il y a trop de fonctionnaires. La masse est importante. Mais après, il y a des arbitrages à faire. Mais aujourd'hui, le problème, c'est la dette publique. Elle est énorme. Comment réduire la dette publique?
Il faut aussi
rationaliser tout ça. Les missions de l'État sont régaliennes. Bien sûr qu'il faut des policiers, qu'il faut des militaires, qu'il faut des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et des professeurs. Mais il n'y a pas que ça. La fonction publique couvre un champ tellement large dans l'économie française qu'elle grève complètement l'économie française.
À force d'avoir ce genre de discours, effectivement, Nicolas Sarkozy avait supprimé des milliers d'emplois de policiers et de gendarmes sous son quinquennat. Il s'avère que situations compliquées en France, notamment dues au fait qu'il manquait des effectifs. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? On a réembauché des fonctionnaires policiers notamment et de gendarmes. Vous voyez bien, et vous n'avez pas su nous prouver là, à l'instant, qu'il y a trop de fonctionnaires. Pas trop de fonctionnaires. Il y a peut-être besoin de retravailler la question, de savoir comment fonctionne le service public, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Quel est l'enjeu du service public en France? Et vous êtes d'accord, par exemple, sur les questions de santé, sur les questions d'éducation? C'est des priorités sur les questions de sécurité.
Le but rationaliser. Enfin,
On a besoin de services publics partout.
Je vous propose qu'on passe au débat suivant et j'aimerais qu'on parle du plan banlieue. Il nous faut un petit peu de temps pour en parler parce que c'est un sujet important. Alors, un plan banlieue, en fait, non, c'est pas un plan, mais en fait, quand même, si, un petit peu, parce qu'il y a plein de mesures annoncées. Écoutez, comme c'est un peu confus, le plus simple, c'est que vous écoutiez directement Emmanuel Macron, qui s'exprimait sur le sujet aujourd'hui à l'Élysée.
Et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Le premier plan de la sorte a été présenté en effet, c'était évoqué par Raymond Barre à peu près au moment où je naissais, et ça a apporté des choses, Jean-Luc Rigaud a eu raison de le dire. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais je pense qu'on est au bout de ce que ça a pu produire sur cette méthode.
Alors, pas de plan chiffré, donc, mais un changement de méthode. Alors, tout de même, parmi les choses annoncées, la mise en chantier d'une cour d'équité territoriale, la création de 30 000 places en crèche, 15 000 stages pour les élèves de 3e dans une grande entreprise. Je vois que vous levez les yeux au ciel, Albert Zenou.
Oui, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus... conséquent. Jean-Louis Borloo avait présenté un plan qui avait le mérite d'être offensif et d'amener quelque chose.
50 milliards.
C'est un plan à 50 milliards. 50 milliards, c'était beaucoup. On savait bien que la réception par Édouard Philippe et par Emmanuel Macron de ce plan n'avait pas été très optimiste, très chaude. Mais là, on arrive à un conglomérat de mesures. Alors, il présente ça comme une méthode, et une philosophie générale, une conception de la ville. Bon, peut-être que ça peut marcher. Je pourrais avoir des doutes.
Ouais, on vous sent quand même pas totalement convaincu. Hein.
Non,
je tiens à vous le dire.
Non, mais le scénario est un peu étonnant parce que formellement, donc Jean-Louis Borloo est apparu tout d'un coup. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron l'a pas vraiment choisi. Hein. Il y a eu un appel de Grigny un peu significatif de maire LR, PS, pas beaucoup LREM parce qu'ils n'ont pas encore été à cette élection, mais quelque chose d'un peu transpartisan qui ressemblait un petit peu à la dynamique que Macron prône. Et donc, on s'est dit que cet appel de Grigny, il remet Jean-Louis Borloo plutôt loué par tout le monde. On a vu tous les portraits dithyrambiques de cet artisan, cet homme capable de rassembler des gens qui sont pas d'accord vers un projet commun.
Fondateur
de l'ANRU. Et c'est vrai que là, ça, on l'a senti d'ailleurs ces dernières semaines, ces derniers jours, dans la tonalité à l'Élysée. On a l'impression qu'il y a presque un jeu de rôle qui s'est joué, qu'il a voulu mettre en scène les plans du vieux monde pour faire un espèce de one-man show aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il commence en disant, je vais vous parler rapidement, on va pas retomber, et ça tombe dans une heure et demie de discours. Pas, tout n'était pas inintéressant, mais la salle s'est vidée à certains moments. Enfin, c'était, je pense, vraiment
forcer le jeu de rôle quand même, parce que on sent que Borloo a été malgré tout un peu dupe dans cette histoire.
Bah, je pense que, enfin, je sais, ça, à la limite, ça restera comme l'anecdote, mais il s'est retrouvé au centre du jeu, porteur d'un projet en disant, justement, la spécificité, c'est qu'il faut tout faire en bloc pour créer une forme de Big Bang. Et on a Emmanuel Macron qui fait l'anti-discours Borloo en appliquant sa méthode habituelle, c'est-à-dire, on prône l'émancipation individuelle. Donc, on va créer, c'est-à-dire, officiellement, on va dire, les conditions sont créées pour que chacun fasse sa propre émancipation. Souvent, ça coûte beaucoup moins cher que les grands plans Marshall.
Oui.
Moi, je trouve que, d'abord, c'est pas l'une des meilleures interventions d'Emmanuel Macron, premièrement. Il est dans sa zone d'inconfort. C'est-à-dire que quand on parle des territoires ruraux, ce qui vous fera plaisir, à juste titre, ou des zones d'ombre de la République, c'est-à-dire les banlieues, il est pas à l'aise. Et il a pas les codes, et il a pas les discours. Je ne suis pas sûr que son discours est
vous
parlé.
Vous êtes en train de nous dire quoi? Que c'est le président des centres-villes, en plus d'être le président des riches?
Alors ça, c'est une évidence, c'est quand même un produit de l'État centralisé, hein. Donc il est parisien, et il fonctionne bien à Paris. Quand il sort de ses marges, il sait communiquer comme ça, mais il a pas les codes. Et je trouve que là, il a ni parlé aux Français des banlieues, ni aux Français en général. Donc, ça imprime pas, là, je trouve.
On va poursuivre et débattre, continuer le débat sur ce plan banlieue présenté par Emmanuel Macron. Il est 20h20, c'est l'heure de l'info, Stéphane Milhomme.
Des orages parfois violents cette fin de journée. À Avignon, une dame de 78 ans a été frappée par la foudre alors qu'elle se trouvait dans un parc. Elle est depuis hospitalisée. À Paris, plusieurs stations de métro ont été fermées en fin d'après-midi à cause de la pluie. Sur les lignes 9 et 3, le trafic est désormais rétabli. Tariq Ramadan reste en prison. Son avocat a tenté en vain aujourd'hui de mettre en avant ses problèmes de santé. L'islamologue est incarcéré depuis 3 mois après sa mise en examen pour plusieurs viols présumés qu'il conteste toujours. La condamnation du ministre de l'Intérieur et surtout l'envoi de policiers en renfort après ces graves incidents hier soir à Marseille. Plusieurs agents de police ont été mis en joue par des malfaiteurs à la Kalachnikov dans le quartier sensible de la Buserine, sans doute pour une affaire de drogue. Un témoin parle également d'un enlèvement lors de ces incidents. Les entreprises seront testées contre la discrimination lors de la présentation de son plan à destination des banlieues. Emmanuel Macron a souhaité une meilleure détection des cas de discrimination à l'embauche. 30 000 stages de 3e seront également proposés par les entreprises, mais aussi l'État. Et puis le patron de Facebook présente ses excuses au Parlement européen devant des eurodéputés et face caméra. Mark Zuckerberg s'est donc exprimé à Bruxelles sur les lacunes de son réseau social dans la protection des données des utilisateurs. Un exercice qu'il avait déjà réalisé il y a maintenant quelques semaines aux États-Unis.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Le plan banlieue à la question ce soir, en tout cas sujet de débat sur notre plateau. Alors, avec des acteurs de la ville plutôt déçus, les premiers informés qu'on a entendus le sont également. Christophe Pierrel, est-ce que c'est juste une question d'argent? Est-ce qu'il manque de l'argent? Parce que des milliards, on en a déjà dépensé beaucoup pour la politique de la ville.
Oui, mais le problème, c'est l'éternel recommencement sur la question de la politique de la ville. À partir du moment où l'urbain vieillit, les villes évoluent, les choses doivent changer. Enfin, l'objet urbain est quand même en perpétuelle mutation, donc ça demande toujours des réinvestissements. Mais c'est vrai que sur le discours du jour, il y a eu un autre discours il y a quelques semaines.
Dijon.
À Dijon. d'Emmanuel Macron, qui était bien meilleur d'ailleurs sur la philosophie de la politique de la ville. Même moi, je m'étais dit 95% de ce qu'il a dit, je le partage.
Oui. Même vous.
Même moi. Oui. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins enthousiaste parce que je trouve que déjà, c'est un agglomérat en fait de politiques déjà annoncées. Enfin, il y a des choses comme la police de proximité, etc., en fait, qui sont un peu de recyclage de choses.
Maisons de santé, qu'il est beaucoup utilisé dans les discours sur la ruralité.
C'est des choses qui sont déjà utilisées, donc on se dit, tiens,
le testing,
bon,
hein, on a parlé aussi. Hein.
Pas de grandes nouveautés, même en termes de philosophie, je trouve ça moins bon. Il n'y a pas de mesure phare qui ressort. L'aménagement urbain, qui est quand même une vraie question, ça ne ressort pas. Le service public, on ne le voit plus. Je vois pas en quoi ça donne un nouveau souffle sur la question de la politique de la ville. Alors je comprendrais que Jean-Louis Borloo soit très déçu parce que il y a déjà eu deux plans en rue avec des vrais moyens, des vraies ambitions, avec des changements et des adaptations dans l'évolution de ce qu'on peut faire. L'application des citoyens, notamment sur le dernier plan en rue, le numéro 2, il y avait toute une partie d'implication des citoyens. Ça a ses effets, mais enfin faut pas oublier que le deuxième plan en rue, il date de 2015. De 2014, qui fait quand même que les effets, on les verra que dans quelques années.
Ce que dit Emmanuel Macron, c'est que ces grands plans ne servent pas forcément à grand chose. Et mais puis, pourquoi traiter les banlieues de manière différente
parce qu'il y a des fractures spécifiques. C'est un vrai débat dans les questions de politique de la ville sur est-ce que ça nécessite des mesures spécifiques ou est-ce que c'est le mouvement global qui doit ruisseler jusqu'aux banlieues et du coup entraîner les banlieues.
Moi, je trouve que ça, il a pas tout à fait tort.
Albert Zeno.
C'est difficile aussi de vouloir faire à chaque fois une césure complète entre les quartiers difficiles, les banlieues, et puis le reste du territoire. On a vu que les différents plans banlieues n'ont pas vraiment bien marché. Vous interrogez les habitants de banlieue, ils n'ont pas le sentiment que leur situation s'est grandement améliorée. Même s'il y a eu des améliorations, enfin, je ne conteste pas. Mais il se trouve que en France, il y a aussi toute une partie des territoires. Alors, je reviens sur la France périphérique, celle qui n'est jamais aidée, qui est en troisième, quatrième périphérie des grandes métropoles et qui se sent elle totalement abandonnée. Sont les oubliés. Enfin, toute cette rhétorique là-dessus. C'est important aussi de penser à eux. Ce qu'on a opposé pendant longtemps dans les plans banlieues, c'est les banlieues face aux autres. Et il faut penser aussi
aux quartiers. Mais dans les quartiers, c'est pas vrai, c'est les quartiers face politiques de la ville. La définition des quartiers politiques de la ville englobe des zones qui sont ces fameuses périphéries oubliées.
Il y a une spécificité. Après, il faut pas l'oublier. Ouais. Après, là où je suis pas d'accord.
On parle pas de la Seine-Saint-Denis.
Sur la question de l'efficacité des plans en rue, enfin des plans banlieues avec l'ANRU comme opérateur, je peux pas vous soutenir. Allez voir ce qui s'est passé dans certains quartiers. Allez voir par exemple à Lameno à Strasbourg, il y a tout un quartier qui a été complètement bougé là en quelques mois, avec de l'accession à la propriété, avec des nouveaux services, etc. Une réappropriation du quartier, à la fin de la paupérisation aussi, enfin toutes ces questions de mixité sociale, elles sont prises en compte. Il faut accepter que les politiques publiques des fois ça prenne du temps et que les choses elles sont pas immédiates. Le dernier plan en rue c'est 2014, on peut pas
Je me pose la question de savoir s'il y a pas une pirouette dans ce qu'il fait. C'est-à-dire quand il dit je présente pas un plan et finalement derrière il y a tout ce qui ressort dans le plan. Voilà. Et je me demande si en fait il se rend compte qu'il n'a pas les moyens de sortir 50 milliards d'euros et que donc il se met dans une position où il ne fait pas ce qu'il veut. Et donc, il en arrive à sortir des mesures comme ça, qui ont été déjà évoquées, et qui n'apportent rien. Je pense que c'est ça, surtout. C'est un retrait par rapport à l'ambition qu'il pourrait avoir. Parce que, un grand plan sur les banlieues, on en a besoin. Je suis désolé, l'ANRU a fait certes des choses, et moi, je suis originaire de Perpignan, donc l'ANRU, je connais bien, vous êtes de Gap, moi, je suis de Perpignan, et Perpignan, je peux vous assurer, c'est une ville qui est en grande difficulté.
Bien sûr.
Et l'ANRU est loin d'avoir, alors qu'elle a beaucoup été aidée du temps de l'ancien maire, l'ANRU a loin d'avoir résolu toutes les problématiques. Donc je pense que là, ce qui manque, c'est un vrai plan. Et peut-être dans ce plan, effectivement, resituer les interventions de Blanquer, de Collomb, etc. Et ça, on voit pas l'ensemble. On voit pas l'ensemble, mais on voit pas le particularisme qu'il a sur les banlieues.
C'est certain que sur les questions économiques, je comprends l'idée de dire par la philosophie, par l'effet positif, on arrive à entraîner parce qu'on redonne de la confiance, etc. Bon, ça je l'entends, mais sur la politique de la ville, on peut pas dire uniquement un discours, une philosophie, une vision, ça suffira. C'est-à-dire que c'est pas là que ça va tout d'un coup entraîner les quartiers, leur redonner de l'espoir, etc. Il faut des faits, et dans ce plan qui est présenté, dans ce qui est présenté aujourd'hui, on sait même plus comment l'appeler, il n'y a pas grand-chose en substance qui permet de redonner aussi de la confiance dans ces quartiers-là, avec des restructurations, justement, comme vous venez de dire, sur Perpignan ou sur d'autres endroits, hein, qui en ont besoin. Et ça, c'est totalement regrettable.
Non, la version optimiste, c'est de se dire qu'on croyait que c'était le point d'arrivée et qu'en fait, c'est le vrai point de départ. C'est ce que Jean-Louis Borloo essaye d'entretenir comme idée aujourd'hui, en disant les cases sont cochées. Et effectivement, sur beaucoup de sujets, le président a dit rendez-vous en juillet, rendez-vous en juillet, rendez-vous en septembre.
Vous n'étiez pas d'accord sur les fonctionnaires. Vous l'êtes
un peu plus.
Hein, sur le plan banlieue. On va voir comment ça va se passer dans la deuxième partie des informés, parce que on fait une petite pause, on laisse passer la météo, l'info, et on se retrouve dans 5 petites minutes.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, le mois de mai, c'est le mois de l'hésitation. Comment on va s'habiller? Est-ce qu'on va faire le pont? Et où on va partir? Quel parfum de glace? Bref, on hésite vraiment sur tout. Ah si, il y a une chose sur laquelle on n'hésite pas. Notre box internet.
Eh oui, chez SFR, n'hésitez plus un instant. Jusqu'au 28 mai, la box starter est à seulement 19€ par mois pendant 12 mois, puis 35€. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité, réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
Il suffit de 6 numéros. Ce samedi, jackpot loto de la fête des mères. 10 millions d'euros minimum à gagner, à partager au rang 1 voire règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Réagissez à l'actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag France Info.
France Info Météo avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt. 280 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Élodie Calac à Météo France.
Toujours des orages demain, on commencera la journée avec pas mal de nuages près des frontières du nord, du nord-est vers le massif central, les Alpes, PACA et la Corse, parfois avec une petite averse. Plus à l'ouest, région parisienne comprise, du soleil, un petit peu de grisaille sur le sud-ouest notamment. Il fera 9 à 14 degrés le matin, jusqu'à 16 autour de la Méditerranée. L'après-midi, les averses reprendront du service quasiment partout, avec des orages, parfois de la grêle. Les éclaircies se réduiront. On devrait rester à l'écart en bord de mer avec de belles éclaircies, que ce soit près de la Manche, près de l'Atlantique ou de la Méditerranée, mais aussi sur les plaines du sud-ouest. Le thermomètre affichera 18 degrés à Saint-Malo, 22 degrés à Lille, Nancy et Bastia, 23 à Lyon, 24 degrés à Paris, 25 à Nantes et à Nîmes et 26 degrés pour Cognac ou Agen.
Vous écoutez France Info, il est très précisément 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info, c'est avec Emmanuel Langlois. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. De gros orages ce soir sur Paris. Plusieurs stations de métro ont été fermées à cause des inondations. Le trafic a été interrompu entre Trocadéro et Havre-Caumartin et reprend progressivement ce soir. De nombreuses photos montrant les usagers, les voyageurs, les pieds dans l'eau circulent sur les réseaux sociaux. Le Havre débouté, mais Ajaccio sanctionné. C'est un peu le résumé des sanctions annoncées par la Ligue de football professionnel cet après-midi après le match désastreux de ce week-end entre Ajaccio et le club du Havre. Match de barrage en Ligue 2. La Ligue a donc décidé de maintenir le résultat et donc la qualification des Corses, mais en les sanctionnant tout de même. Sébastien Hazard.
Sanctionné parce qu'Ajaccio ne disputera pas ce match demain à domicile. Ce barrage aller d'accession en Ligue 1 aura lieu à Montpellier sur terrain neutre. La Ligue de football professionnel a décidé de délocaliser cette partie. Elle estime qu'il était difficile d'organiser un huis clos à Ajaccio au stade François Coty, plutôt pour des raisons de sécurité, de configuration de l'enceinte sportive. Ajaccio va jouer la montée, en tout cas le match aller, sans l'appui de ses supporters dans un stade vide. Mais la Ligue a également décidé de ne pas donner suite aux demandes du club havrais d'invalider le résultat de dimanche. En clair, les instances estiment que les éléments présentés n'étaient pas suffisamment forts pour revenir sur le résultat, mais qu'il y avait des facteurs disciplinaires devant être pris en compte, d'où cette suspension de stade et cette délocalisation. Le club corse, mécontent, parle de complot. Cette décision ne plaît pas non plus aux Havrais. Le président du HAC, Vincent Volpé, estime que son club est victime dans cette affaire. Il a l'intention de faire appel, mais de toute façon, cet appel n'est pas suspensif.
Sébastien Hazard, infirmier, postier ou enseignant, faible mobilisation pour les fonctionnaires. Ils venaient défiler pour leur statut et les services publics pour la troisième fois depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, dans une rare unité syndicale. Plus de 130 manifestations à travers la France. À Paris, 16 400 personnes ont pris part au défilé d'après notre décompte, 139 000 dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Le défilé parisien a donné lieu à de brèves échauffourées entre manifestants cagoulés et forces de l'ordre. 20 personnes ont été arrêtées. Et puis après Après 10 mois de lutte, de blocage, de manifestations et de négociations, l'intersyndicale et la direction de GE Hydro à Grenoble tombent d'accord ce soir pour mettre un point final au plan social. Une centaine d'emplois seront sauvés sur le site centenaire de turbines hydroélectriques. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, entendue plusieurs heures comme témoin assisté aujourd'hui. Les juges enquêtent sur le déplacement controversé organisé en 2016 pour Emmanuel Macron à Las Vegas, alors qu'elle dirigeait Business France, l'agence publique chargée de la promotion de la France. Et puis, il avait menacé dans des vidéos la Belgique et la France. Un djihadiste belge a été condamné à mort par pendaison par la justice irakienne, qu'il présentait comme l'un des terroristes étrangers les plus importants jugés pour appartenance au groupe État islamique. Il est 20h33, les informés, deuxième mi-temps.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Avec le communicant Jérôme Ripoul ce soir, l'ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande, Christophe Pierrel, et mes confrères Jonathan Bouchet-Petersen de Libération et Albert Zenou du Figaro. Alors, si vous avez manqué le début, j'adore cette formule, on lisait ça dans Télé 7 jours quand j'étais petit. Si vous avez manqué le début des informés, eh bien je vous signale que vous avez loupé deux beaux débats, l'un sur la grève des fonctionnaires, le second sur le plan banlieue, mais vous arrivez pile pour le débat sur l'avenir politique de François Hollande, parce qu'avenir, il y a peut-être, oui. Fort du succès de son livre, l'ancien président est effectivement un peu partout en ce moment, et même sur France Info, il était l'invité de Apathy Toussaint ce matin, et quand on l'interroge sur son éventuelle candidature à la présidentielle de 2022, eh bien écoutez la réponse.
Est-ce que vous excluez de vous représenter à l'Élysée ?
Je ne suis pas dans cette démarche, là, je présente un livre.
Ma question est simple, est-ce que vous excluez de vous présenter?
Oui, mais je vous réponds comme je l'entends. Je vous présente un livre, j'essaye de faire valoir ce que j'ai fait, d'exprimer aussi des regrets sur ce que je n'ai pas fait ou ce que je n'ai pas bien fait, et puis j'essaye de donner aussi des perspectives pour la gauche. Et c'est en sens que je peux répondre à votre
est-ce
question.
Est-ce que vous excluez vous de vous présenter?
Je pense qu'il y a un espace pour la gauche, la gauche de gouvernement, la social-démocratie qui est très mal en point aujourd'hui, mais qui peut, à certaines conditions, retrouver une espérance.
Bon, vous avez compris ou pas, on a besoin d'explications, et ça tombe bien, puisque ce soir, on a un spécialiste sur ce plateau de la langue hollandaise, Christophe Pierrel, ancien chef de cabinet adjoint du président de la République. À votre avis, est-ce qu'il n'exclut rien, ou est-ce qu'il fait semblant de ne rien exclure ?
Ah non, mais François Hollande, je pense qu'il n'exclut jamais rien. C'est comme ça, il est fait comme ça. Mais c'est plutôt positif, c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit, vous le mettez
vous
dans...
Vous en parlez comme d'un animal bizarroïde.
Oui, parce que vous dites déjà, vous comprenez la langue de François Hollande est parfois difficile à comprendre, mais pour tout le monde. Quand il est dans une pièce, je dis souvent ça, hein, vous n'avez pas de porte, pas de fenêtre, il va en créer plusieurs, il va sortir par l'une, mais on ne sait toujours pas laquelle. Et lui, des fois, je pense, ne sait pas encore par laquelle il va sortir. Par contre, il se crée les opportunités. Il y a des choses qui se passent. Il constate, et je pense qu'il constate, qu'il y a quand même un vide de l'opposition face à Emmanuel Macron. Et avec ce livre, il occupe en fait cet espace-là. On le voit partout dans les médias. Il est celui qui sort des phrases, des petites phrases.
Bon,
c'est vrai qu'il est plutôt bon pour ça.
C'est encore pire que ce qu'on vient d'entendre là. Mais est-ce que votre avis, il pense à 2022 ou pas?
Mais j'en sais rien. Et je vais vous dire, je pense que lui le dira. Si lui y pense, il le dira à personne. Enfin, cette question, vous imaginez bien qu'il ne va pas dire à Jean-Michel Apathy ce matin, oui, je suis candidat à la présidentielle de 2022.
Ça aurait été un scoop.
Déjà, ça n'aurait pas de sens. Ça serait dans un contexte complètement déconnecté. Donc, n'attendez pas que moi, je prenne la parole pour lui. Puis en plus, c'est pas moi de le faire.
On pourrait prendre la place de François Hollande.
Mais les opportunités, elles se créent. Je pense que ce qui va encore un peu manquer, si jamais il y pensait, c'est la capacité à être un peu plus critique sur le bilan, à pouvoir justement dire ce qui n'a pas été, sur quoi il aurait pu mieux faire. C'est encore un cap qu'il a du mal à franchir. Dans les interviews, j'écoute un peu tout ce qu'il dit. On n'en est pas encore là, mais par contre, je trouve que c'est un bon opposant d'Emmanuel Macron.
Jérôme Ripoll.
On l'est passé. Moi, je.
C'est de la bonne communication, ça?
Je crois pas. Moi, en tant que communicant, ça me plaît pas beaucoup. C'est tôt. Mais je vais vous répondre. Je pense que François Hollande, comme Nicolas Sarkozy en son temps, comme Valéry Giscard d'Estaing en son temps, n'ont pas compris qu'on était passé à une autre ère sous la Ve République. C'est l'ère, celui qui n'a pas été réélu sous la Ve République, il y en a qui ont été réélus, c'est François Mitterrand, c'est Jacques Chirac. Celui qui n'a pas été réélu souffre d'une terrible mélancolie qui lui donne l'envie de revenir au pouvoir. Mais ils n'y reviendront pas. Sarkozy n'a pas pu revenir, François Hollande ne peut pas revenir parce que ce que vous dites est très juste sur les portes qu'il ouvre. Mais les Français ont compris ce qu'il était. C'est-à-dire que les Français, au bout de 5 ans, l'ont décrypté. Et je pense qu'ils ne veulent plus de président. D'abord, ils ne veulent plus de président qui a échoué, ça c'est très clair. Et ça a été très net avec Sarkozy. Et la deuxième chose, c'est qu'on est passé à l'ère du président jetable. C'est l'ère du biodégradable, c'est l'ère du Kleenex.
C'est pour ça que je vous disais que je pense que pour l'instant, ce qui manque dans le discours, c'est aussi un aspect des fois plus critique sur ce qui n'a pas marché, etc. Après, l'ère Kleenex, en fait, elle date surtout du quinquennat. Sur le septennat, les choses n'étaient pas pareilles. Il ne faut pas oublier qu'on fait des élections de présidents de plus en plus jeunes aussi, qui du coup sont quand même marqués par leur vie politique et qui aiment la politique, Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc.
Et qui ne sont pas trop vieux pour faire la politique.
Tout ça crée un contexte aussi quand même.
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il est difficile de faire des jugements définitifs sur celui ou celle qui sera élu ou pas élu. Donc certes, je pense que François Hollande ne veut pas insulter l'avenir. S'il y a une bonne opportunité, il peut la saisir. Ça me paraît difficile, là aussi, mais bon, mais pourquoi pas. Mais comme disait mon voisin, qu'il y ait eu Sarkozy avant lui, Giscard d'Estaing avant, qui a voulu revenir, parce que ce sont des hommes politiques qui ne vivent et qui ne pensent qu'à ça. François Hollande, c'est un homme politique qui fait de la politique depuis 40 ans, depuis 50 ans. Emmanuel Macron en fait depuis beaucoup moins. Et donc, c'est un animal politique. Il ne vit que pour ça et que par ça. Et donc, son envie, elle est toujours, comme Sarkozy, je pense que même Nicolas Sarkozy, même s'il est totalement exclu qu'il puisse revenir.
Mais il continue à y penser un petit peu.
Il doit se dire que s'il y a un millième de pourcent de chance que je puisse revenir, il pourrait éventuellement saisir sa chance. Mais ce sont de vrais politiques. Ils ne veulent que ça. Est-ce que François Hollande sera...
Ça, on fait un peu de la psychologie, c'est-à-dire qu'il y a un élément important, mais ça dit que c'est le point commun de tous, c'est forcément pas la singularité de François Hollande.
C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, à gauche, il y a un créneau qui est laissé vacant.
C'est ça qui est dramatique,
d'ailleurs. Emmanuel Macron s'étant décalé sur sa droite, il laisse une gauche social-démocrate vide. Et à l'abandon. Donc il y a une possibilité.
Et la nature a horreur du vide. Alors vous savez, on brûle de savoir ce que pense Jonathan Boucher-Peterson du sujet. Cependant, il est 20h40, c'est donc l'heure de l'info. On laisse passer Stéphane Milhomme et puis on retourne sur François Hollande.
139 000 manifestants à travers 130 manifestations de fonctionnaires. Le bilan est dressé ce soir par le ministère de l'Intérieur. Depuis Bercy, Gérald Darmanin parle, lui, d'une mobilisation d'à peine plus de 10% dans la fonction publique d'État. 16 400 manifestants à Paris, selon cette fois les chiffres du cabinet Occurrence. 20 personnes ont été interpellées à la suite d'incidents ou encore de violences. Demain et jeudi seront marqués par le 11e épisode de grève à la SNCF et la direction promet 3 TGV sur 5. Un TER et Transilien sur 2, des perturbations en baisse. Trafic normal des RER A en Ile-de-France. Quelques difficultés en revanche pour les RER B. L'inspection générale de la gendarmerie nationale ouvre une enquête après l'intervention de Notre-Dame-des-Landes. Elle veut connaître les circonstances qui ont conduit à la grave blessure d'un manifestant de 21 ans sur la ZAD, touché à la main par une grenade lacrymogène lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. L'attentat a été déjoué en Afghanistan, mais le désamorçage d'un minibus a fait au moins 16 morts, également 38 blessés lors de cette opération délicate de la police. Le bilan risque de s'alourdir après ce drame à la mi-journée, c'était à Kandahar. Et puis le site Parcoursup délivre ce soir ses premières réponses, les souhaits des futurs élèves et futurs bacheliers surtout pour l'entrée à l'université. Plus de la moitié des jeunes doivent avoir une réponse positive, c'est-à-dire 400 000 jeunes. Les élèves en attente, dans de très nombreux cas, vont avoir une place. La promesse ce soir du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et en politique, on n'est jamais mort tant qu'on n'est pas au cimetière, dit l'adage. On débat de l'avenir politique de François Hollande. Jonathan Boucher-Peterson, c'est impossible pour un François Hollande d'abandonner la politique. C'est ce que nous disaient Albert Zeno et Jérôme Ripoul.
Je pense que c'est difficilement concevable. Après, on peut avoir des conceptions différentes de l'action politique et de la façon de peser sur son camp. Je pense que l'enjeu pour François Hollande, il est d'abord de pas disparaître formellement, parce que quand on a été battu à une élection, quand on a eu l'occasion de défendre son bilan, d'être dans un débat d'entre-deux-tours, voilà, ce genre de moment de symbolique, on perd, c'est difficile, c'est très bien, mais on a perdu, on a eu sa chance. François Hollande, il a été battu par le contexte. Il considère qu'en responsabilité, il a évité une catastrophe. Donc une fois que François Fillon a connu les déboires qu'on sait, ça a été un petit peu plus lourd à accepter, parce que là, pour le coup, le jeu de la petite fenêtre, je pense qu'il en a vu quelques-unes. Mais il n'empêche qu'il a été battu par le contexte. À aucun moment, les Français ont eu l'occasion de lui dire non. Et ça, pour un politique, c'est très important. Il considère avoir été un homme d'État à ce moment-là.
Et considère que son bilan n'a pas été défendu.
Non, que son bilan n'a pas été défendu, qu'il est toujours pas défendu, parce qu'on voit que le candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, a fait campagne avec le succès qu'on sait dans un contexte qui était compliqué pour le candidat de gauche socialiste, quel qu'il soit, évidemment. Mais voilà, aujourd'hui, on a un Olivier Faure qu'on n'entend pas, que personne n'imagine candidat en 2022.
Et à l'époque, on disait quand même qu'Emmanuel Macron, c'était le fils caché de François Hollande.
En tout cas, c'est comme ça
qu'on disait. Beaucoup de gens informés, il y a.
On a entendu beaucoup de gens le dire. Oui, moi, j'avais noté un Hollande moderne. C'est-à-dire que je pense qu'il est ni Hollande dans ce que Hollande avait bon, ni moderne sur ce que d'autres personnes attendaient. Donc, effectivement, la déception, elle est forte. Il y a un peuple de gauche qui est orphelin. L'hégémonie de Mélenchon sur la gauche dans son ensemble, elle n'est même pas l'objectif clairement de Mélenchon, qui fait une conquête populiste ou en tout cas populaire du pouvoir. C'est son objectif. Donc, il y a un espace que Benoît Hamon va pas contester. C'est trop tôt, enfin, pour le redire, ça a été dit. Évidemment que c'est trop tôt. Mais encore une fois, l'enjeu est de ne pas disparaître. Il y a un bouquin qui se vend bien. On a
closé.
J'ai même entendu des gens se moquer du fait qu'on puisse faire une tournée dans les magasins Leclerc. Je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu où les livres se vendent aujourd'hui et où les revues se vendent aujourd'hui. Ils ont oublié que Emmanuel Macron, que Nicolas Sarkozy, enfin que beaucoup de gens avec beaucoup plus de classe, hein, beaucoup plus présidentiel que François Hollande, faisaient les mêmes ventes dans les mêmes librairies. Là où sont les gens, c'est grossier.
Christophe Hirel.
Non, mais en plus, pour la tournée justement de livres et de signatures qu'il fait, il y a un monde de fous, les gens viennent, il aime aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le côté politique, parce qu'on a l'impression que la politique...
Il rencontre
politique,
que mécaniquement que des gens qui lui disent du bien.
Pas du tout. Il voit le président chinois le 25.
Détrompez-vous.
En Chine, reçu, ça va le changer aussi.
Détrompez-vous, c'est pas vrai. Je regardais certains reportages où les gens viennent aussi par curiosité, par explication, pour comprendre ce qui s'est passé dans les 5 années qui viennent de se passer. C'est pas justement que des
gens qui font la queue.
Non, mais je vous promets, allez avec un micro et demandez à ceux qui sont dans les files d'attente.
On fait ça parfois.
Bah justement,
quand Valérie Pécresse fait un livre, elle le vend à 400 exemplaires.
Là, ça dit aussi des choses. Il est effectivement très loin dans les ventes, mais c'est pas qu'une question de vente. C'est juste qu'il renoue aussi un contact avec les gens. C'est quelqu'un qui aime, qui a de l'empathie, qui aime les gens. Je crois que la politique n'a rien de sale dans ce contexte-là.
Les gens
qui aiment ça, qui aiment être au contact des citoyens, prendre le pouls de la population, je trouve ça plutôt sain. C'est intéressant. Ouais. Après, là où ça va mener,
je veux dire,
là où ça va mener, c'est de la politique fiction, on se faire plaisir sur un plateau de télé. Mais enfin, je suis pas sûr que les Français en aient grand-chose à faire.
Non, c'est pas maintenant que les questions se posent. Évidemment,
je pense qu'ils ont d'autres questions à régler, notamment des questions de pouvoir d'achat, des questions de services publics, enfin tout ce qu'on a traité avant.
C'est quand même le sujet le plus distrayant.
Oui, c'est pas l'enjeu fondamental.
Qu'on parle un peu plus d'un an après les élections présidentielles du candidat qui ne s'est pas représenté parce qu'il n'était pas en situation du président qui ne s'est pas représenté parce qu'il n'était pas en situation de l'être, c'est dire à quel point la gauche est aujourd'hui éclatée, démobilisée.
La droite aussi, en fait. Ouais. Non, mais c'est l'avantage.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que sur les sondages, on voit bien qu'elle se porte légèrement mieux. C'est pas brillant, mais c'est légèrement mieux. Et puis, je pense qu'elle a pas de problème de leadership.
Elle devrait être au pouvoir, la droite, C'est ça qui est bizarre.
Rassurez-vous, Libération, je suis pas en train de critiquer.
Non, je suis pas Libération, vous êtes pas les communicants.
Je suis pas là pour dire que.
Je suis là pour moi.
Je suis tout à fait provoqué, je parle de la gauche. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, le débat soit, est-ce que c'est
non, le débat, il est pas là. Enfin, la gauche, il est pas là. Nous, on est en train de parler de ça.
Là, vous prenez pour la gauche, là, quand je vous prends.
Mais non, mais nous, les gens que ça intéresse, oui, c'est de pouvoir faire de la politique fiction sur le devenir de François Hollande. Évidemment que le débat à gauche, il n'est pas là. Il est plutôt sur les fonctionnaires, il est sur la SNCF.
Vous m'accordez une chose. Si on fait un débat sur l'avenir de François Hollande, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne à gauche qui apparaît comme une alternative.
Très probablement. C'était il y a un an, ils ont fini à 6%. C'était même pas le candidat qui était.
Mais quand bien même.
Ça fait longtemps que ça a été documenté.
On vous a.
texte parce qu'il y a des choses
qui ce débat ne ressemble à plus rien, donc quand le débat ne ressemble
c'est
à plus rien.
C'est pas nous qui l'animons.
Hein. Je rappelle eh bien, que on change de débat et on va changer de sujet, on va abandonner ce président hein, qui semblait ne plus avoir beaucoup d'amis pour un homme qui, lui, alors.
Je complète juste une chose quand même. Un an après la victoire de François Hollande, on parlait déjà du retour de Nicolas Sarkozy aussi. Il s'avère que c'est quand même un éternel retour.
Et là, j'aimerais qu'on parle de Mark Zuckerberg, si vous le voulez bien, puisque le fondateur de Facebook était entendu aujourd'hui et tout à l'heure par des parlementaires européens pour s'expliquer sur les lacunes de son réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs. Alors, l'audition a été retransmise en ligne et elle pourrait finalement se résumer en une formule. Excusez-moi, on écoute Mark Zuckerberg.
Il nous est apparu qu'au cours de ces dernières années, nous n'avons pas assez fait pour empêcher que nos outils ne servent aussi à faire du mal. C'est vrai pour les fake news, les ingérences étrangères dans certaines élections et les utilisations frauduleuses des données des utilisateurs. Nous n'avons pas suffisamment pris nos responsabilités. C'était une erreur et j'en suis désolé.
Albert Zenou, ce type d'audition, ça sert à quelque chose ?
C'est un exercice de contrition. Donc il vient expliquer, il l'avait fait aux États-Unis devant le Sénat, il revient ici devant le Parlement européen pour dire que il se bat sa coupe, je me suis trompé, j'ai failli, mais vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Bon, il y a 87 millions de comptes qui ont été piratés, dont les données ont été aspirées.
Dans le scandale Cambridge Analytica. Hein.
Ouais, une puissance de Facebook qui est devenue quasi incontrôlable aujourd'hui. Enfin, c'est un empire. Alors, je sais que il est de bon ton de dire que les réseaux sociaux sont un bien ou un mal nécessaire selon, et qu'ils sont incontrôlables et inarrêtables. Mais il faut arriver à faire quelque chose. D'autant que là, je mets les pieds dans le plat. Il y a une contrainte et une obligation fiscale que Facebook et les autres GAFA ne remplissent pas, qui est totalement insupportable, inadmissible.
Jean-Marie Pouille.
Oui, c'est un exercice de communicant qui devient assez courant maintenant. C'est-à-dire on a fait une erreur et donc on vient...
Très américain.
Très américain, mais ce ne serait pas en France aussi. Hein.
François Hollande, pas encore, nous disait Christophe Pirel, mais...
Regardez d'ailleurs à la télé, quand il y a dans des émissions plutôt, qui révèlent des scandales, on voit bien que certains communicants qui commencent à faire certains patrons qui commencent à s'excuser, ça passe mieux effectivement que de contester. Donc là, il est effectivement dans cet exercice-là. Je pense aussi qu'il a des enjeux derrière à préserver, c'est toutes les législations que peuvent prendre les pays européens ensemble, et qui pourraient mettre à mal son modèle économique. Et donc ça, je pense qu'il est très attentif, et quand il fait cette tournée, c'est aussi une tournée de séduction. Il vient donner des gages et il vient éviter peut-être que tous les pays prennent ensemble des législations, notamment sur l'or d'or. Là, c'est l'idée de supprimer dans l'heure qui suit la publication d'un contenu illégal, que ce contenu soit supprimé. Bah, ça, c'est quelque chose qui pourrait être de nature à le gêner.
Et on va continuer à débattre de Facebook, de cette stratégie de Mark Zuckerberg. C'est savoureux tout de même de constater qu'il souhaitait que ce débat ait lieu à huis clos. Lui quand même, qui promeut qui se fait le chantre de la transparence et de la communication tous azimuts. 20h50 sur France Info, l'info, Stéphane Milhomme.
Le président du Havre fait appel. Son homologue d'Ajaccio parle de honte après la décision cet après-midi de la Ligue professionnelle de football suite aux incidents de dimanche dernier. Le résultat du match Ajaccio-Le Havre est entériné, mais le match d'accession de Ligue 1 Ajaccio-Toulouse est lui délocalisé à Montpellier et à huis clos. Ce sera demain soir. Tariq Ramadan reste en prison. L'islamologue est incarcéré depuis début février après sa mise en examen pour plusieurs viols présumés qu'il conteste, et son avocat a tenté aujourd'hui encore de mettre en avant ses problèmes de santé pour réclamer cette remise en liberté. L'envoi de policiers en renfort à Marseille après ces graves incidents hier soir. Plusieurs agents de police ont été mis en joue par des malfaiteurs armés de Kalachnikov. C'était quartier de la Busserine. Un témoin parle même d'un enlèvement. Le commando est toujours en fuite selon le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Une centaine d'emplois supplémentaires sauvés chez General Electric Hydro à Grenoble, c'est-à-dire au total 550 employés. Après 10 mois de bataille des salariés, manifestations et négociations, syndicats et directions sont donc arrivés à un accord, les conditions de départ volontaire sont plus attractives. Cet ancien site Alstom a employé en Isère jusqu'à 800 salariés. Et puis Donald Trump laisse planer le doute sur la tenue du sommet avec Kim Jong-un prévu le 12 juin. Le président américain pense ce soir qu'il pourrait se dérouler un peu plus tard, même si Trump considère que le président nord-coréen est sérieux sur sa volonté de dénucléariser.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on en revient à cet acte de contrition de Mark Zuckerberg cet après-midi devant le Parlement européen. Vendredi entre justement en vigueur une nouvelle législation européenne sur le sujet. Elle visera à mieux protéger les données personnelles. Ça s'appelle le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données. Ça va être à la hauteur des enjeux, Jonathan?
Alors j'avoue que je peux commenter... Non, pas du tout. je peux commenter beaucoup de choses. Moi, je connais pas bien la technicité de ces enjeux. C'est bien ça qui est un vrai enjeu démocratique. C'est que très souvent, et on l'a vu d'ailleurs beaucoup plus au Congrès américain, parce que le jeu de ping-pong avec Zuckerberg était plus pointu, mais qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est alerté sur le risque, où on comprend bien qu'on a mis le doigt dans une pieuvre ou dans quelque chose qui nous échappe, et où en même temps on se rend pas très bien compte de ce que sont les leviers, ce que sont les outils. On attend de la puissance publique qu'elle réaffirme simplement qu'il y a des règles, simplement qu'à partir du moment où on a identifié collectivement des risques, que ce soit des risques éducatifs, des risques d'accès à un certain nombre d'informations, des risques d'addiction, enfin dans tous les domaines.
Il s'agit pas de réaffirmer, il s'agit d'affirmer, parce que sont des technologies qui sont assez nouvelles, des réseaux sociaux.
Nouvelles, c'est-à-dire que le risque de, pour le coup, c'est le Facebook, on a quand même pendant longtemps détourné un petit peu le regard. C'est-à-dire quand on voit aujourd'hui les mouvements même dans un cadre de Facebook, et ça doit nous interpeller. Mmh. Dire aujourd'hui, moi j'ai fait l'acte de quitter le réseau social et j'empêche mes proches, mes enfants d'y aller. C'est pas pour diaboliser en disant les réseaux sociaux dans l'absolu. Simplement l'usage et les us et coutumes chez Facebook, on pourra pas compter sur l'autorégulation.
Vous avez quitté Facebook?
Non, moi j'ai pas quitté Facebook, mais c'est vraiment que j'ai une fille de 7 ans, par exemple. Enfin, pour rentrer dans le détail, je sais que ce genre de sujet va arriver dans les prochaines années, on est démunis, parce qu'en même temps c'est un enjeu de lien, évidemment qu'il y a de la sociabilité aussi qui existe là-dedans, mais entre cette espèce de puissant fond en absence de tout contrôle, parce qu'on le voit bien même quand on reçoit à longueur de temps aujourd'hui des notifications d'un certain nombre d'applications pour mettre à jour les conditions. On sait très bien que tout ça, c'est fini, on clique. Donc est-ce qu'on est déresponsabilisé individuellement? C'est possible. Moi j'attends que sur ces sujets où on n'est pas forcément armé et on n'a pas le rapport de force, l'État le fasse, et l'enjeu il est européen. On a parlé de la question fiscale, c'est une question fiscale, c'est une question démocratique, c'est une question éducative, c'est une question majeure.
De données aussi. Hein.
De données, il y a une business derrière.
Non, mais sur Facebook, c'est terrible, parce que, enfin, c'est comme tous les réseaux sociaux. C'est un outil dont on peut plus se passer, c'est-à-dire que c'est devenu une norme de l'utiliser, mais on peut plus en sortir non plus. C'est-à-dire que il y a ce côté, une fois qu'on est rentré dans les réseaux sociaux, ce que vous disiez, comme une pieuvre, on met un doigt dans un engrenage et plus jamais on peut s'effacer.
D'autant qu'il y a plein d'applications qui fonctionnent.
Parce que les réseaux sociaux sont tous maintenant entreliés, puis en plus chacun possédant à peu près tout le monde, parce que Facebook est déjà propriétaire de plusieurs applications comme WhatsApp et tout ça. Donc évidemment tout ça communique entre eux, et on a l'impression que les données, la question de la donnée, elle est plus effaçable. C'est-à-dire qu'on peut plus prendre la décision de revenir en arrière. Et donc un enfant, un jeune...
Non, on peut arrêter d'en donner.
Oui, mais on peut arrêter d'en donner, mais on peut plus les enlever une fois qu'on les a donnés.
Il pourrait les obliger
à effacer. Vous pouvez faire des grosses erreurs.
Mais bien évidemment, vous pouvez faire des grosses erreurs quand vous avez 16 ans, 17 ans sur les réseaux sociaux, et puis vous vous retrouvez à 25 ans, 30 ans, sur le marché de l'emploi, et tout d'un coup, tout ressort.
Le numérique n'a pas d'oubli.
Et donc je pense qu'il y a une double chose, c'est que oui, il faut intervenir au niveau européen, parce que pour le coup ça peut pas vraiment se jouer au niveau des États, parce que je pense qu'on est trop petit pour intervenir sur ces sujets-là.
On n'est pas solidaire.
Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie question d'éducation. Dans les écoles aujourd'hui, on ne parle pas ou pas assez de ces questions-là. Il n'y a pas de module d'enseignement sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, quels risques, où est-ce que vous allez, dans quoi vous mettez les pieds. Moi, je suis assez stupéfait de voir l'éducation nationale.
Il y a beaucoup d'écoles.
On n'est pas sur le Facebook.
On est plutôt avec un ministre de l'éducation nationale qui est en train d'essayer justement de sortir.
Oui, mais justement, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'expliquer aux enfants c'est pas un sujet. Si c'est un sujet, il vaut mieux donner les clés et les explications plutôt que de dire à l'école on doit enseigner que les maths, le français, etc. Je suis d'accord, il faut que ça soit un pôle fort d'enseignement, mais il y a des choses qui se passent à côté dans la vie réelle et il faut les prendre en compte.
Mais je pense qu'effectivement, ce que vous disiez, Christophe, est tout à fait exact, c'est que c'est pas le consommateur qui va pouvoir se réguler. parce que lui, il est devenu addict. Et donc, c'est l'État qui doit prendre en main les choses. Et effectivement, le niveau européen, a fortiori, est au mieux. Mais il est évident que là, il y a quand même des associations qui commencent à se monter pour demander que les données de Facebook soient mieux contrôlées, qu'on arrête aussi de son monopole, parce que vous l'avez dit, trois applications, Messenger, WhatsApp, etc., qui deviennent Instagram, qui deviennent Instagram, vraiment très 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 puissants dans notre vie. Et ils récupèrent une somme de données qui fait qu'aujourd'hui, les penseurs libéraux sont en train de dire, bah, écoutez, stop, les données sont à nous, et nous, particuliers, nous devons en faire ce que nous voulons. Et ça, je pense que c'est un point essentiel, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire de nos données? Moi, je n'ai pas envie qu'on les utilise.
Les informer, malheureusement, eh bien, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous quatre. Merci. Messieurs. Un petit mot peut-être des unes de vos deux quotidiens. La une de Figaro demain, Albert Zenou.
Sur le faux plan blanc-yeux.
Jonathan Boucher-Bellarsen, la une de Libération.
J'espère qu'on n'a pas fait la même une, mais on est aussi sur le plan banlieue et on est aussi un petit peu mitigé.
Ah ben, on verra ça demain, on verra si c'est la même une.